Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL et dans la curiosité du dimanche. Ça va mon Thomas ?
Oui, ça va très
bien. J'avais déjà envie de rire, ça
Mais
commence
oui,
bien.
On est bien quand on est ensemble sur RTL. Alors au programme.
À la claire fontaine, m'en allons promener.
C'est mignon, c'est une comptine, c'est une
J'adore.
Berceuse de notre enfance. Eh ben, écoutez bien, c'est beaucoup plus coquin que prévu.
Ah, coquine comme l'histoire érotique du Kremlin.
Aussi.
Des six femmes d'Ivan le Terrible à la First Lady que voulait être Aïssa Gorbatchev, nous visiterons tout à l'heure ce haut lieu de pouvoir, l'un des plus mystérieux au monde.
Mais d'abord, donc, on part à la découverte de la face cachée de nos chansons les plus célèbres. C'est dur à dire, ça.
Est une chanson qui nous ressemble.
RTL.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
Jusqu'à 22h.
As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là?
Sur le pont de Nantes, un bal y est donné. Sur le pont de Nantes, un bal y est donné.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nana Mouskouri, Guy Béard, Montand et des chansons populaires. C'est l'histoire de nos chansons les plus célèbres que l'on découvre sur RTL avec nos invités Serge Hureau et Olivier Husney, comédien, chanteur, directeur et artiste permanent du Hall de la Chanson. Tiens, pour commencer, c'est quoi le Hall de la Chanson ?
Alors, le Hall de la Chanson, c'est une sorte de petite comédie française de la chanson. C'est le ministère de la Culture qui a créé ça avec la SACEM. Et c'est vraiment revisité avec des vivants, des très jeunes. Les artistes ont tous moins de 25 balais. Mmh. Et ils chantent des choses qui ont des siècles. Et les gens les redécouvrent ou les découvrent tout court. On n'est pas obligé de les connaître toutes, ces chansons.
Et c'est basé à la Villette. Donc à Paris, dans le 19e arrondissement.
Et donc c'est aussi une scène, il y a un théâtre et on peut venir assister à des spectacles. Voilà, ça c'est fait. Et grâce à vous, donc, on va découvrir ou redécouvrir le sens caché ou méconnu de ces chansons. Tiens, on commence par une comptine célébrissime, écoutez.
Au clair de la lune, interprétée par Yvonne Printemps en 1931. Je devrais peut-être l'essayer cette version sur ma fille, elle dormirait peut-être un peu plus. Elle est beaucoup plus ancienne, cette comptine.
Oui, c'est une comptine du 18e siècle, en fait, très clairement.
Presque toutes les chansons pour les mômes sont du 18e siècle.
Alors, elle est facile à retenir, elle est rassurante. Je l'ai chantée à mes enfants, mes parents me l'ont chantée, c'est éternel. Et pourtant...
Mais vous chantez que pourtant, le premier couplet.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit vraiment, cette chanson?
Dès le deuxième couplet, on commence à comprendre. Hein. C'est pas la peine de savoir que tailler une plume, ça veut dire une chose très précise. Et dès le deuxième couplet, on
sent... C'est une allusion sexuelle?
C'est très clairement une chanson érotique, en fait.
Deuxième couplet, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas se fabriquer une plume pour écrire, rien
non,
à voir.
Allez-y, dites-nous le deuxième couplet.
Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit, va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet.
C'est-à-dire qu'on allume quelqu'un.
Ça veut dire qu'on bat le briquet, c'est-à-dire qu'on est déjà proche du coït. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. Elle répond soudain, qui frappe de la sorte? Il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Là, il n'y a plus du tout d'ambiguïté.
Et le final, c'est quelque chose.
Et le final.
Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche la plume, on cherche le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva. Mais je sais que la porte sur eux se ferma.
Ah, mais on peut s'endormir quand même. C'est une femme très doux avec vos
Ça veut dire fais dodo bébé et papa et maman vont
s'occuper.
Fermer leur chambre.
Ah, c'est vrai. Alors, il y en a une autre
maintenant,
que ma fille adore, c'est à vous dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment. Mais alors maintenant, je suis un peu inquiète. Là, je vais vous demander la signification.
On va directement au deuxième couplet alors.
Ah oui, d'accord. Elle date de quand déjà? C'est 18e aussi.
18e. 18e, vous savez, c'est un peu coquin, c'est pas le 19e siècle qui est un peu prude quand même.
Alors, avant que vous nous chantiez le deuxième couplet, on va comprendre pourquoi elle est populaire, peut-être grâce à un grand, comment dire, même très grand compositeur qui l'a popularisé. Écoutez cette variation pour pianoforte. Et et c'est signé.
C'est le petit Mozart, ça, non ?
Mozart.
Oui.
Mozart.
Mais en fait, les chansons, elles inspiraient les grands musiciens. Il n'y avait pas du tout de coupure dans ce XVIIIe siècle entre les chansons populaires et puis l'art noble. Et en fait, c'était des motifs qu'ils utilisaient et à partir desquels ils brodaient, quoi.
Et alors, quand on découvre les paroles de cette comptine enfantine, tellement mignonne.
À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu Sylvandre me regarder d'un air tendre, je me dis à tout moment, peut-on vivre sans amant ? L'autre jour, dans un bosquet, il me cueillait un bouquet. Il en orna ma houlette, me disant :
belle brunette, Flore est moins belle que toi, l'amour moins épris que moi.
Je rougis et par malheur, un soupir trahit mon cœur. Le cruel avec adresse profita de ma faiblesse. Hélas, maman, un faux pas me fit tomber dans ses bras.
Je peux continuer de la chanter, celle-là, elle est quand même très délicate, ça parle d'amour.
Ah ouais. Mais ça parle d'amour.
Mais alors après, il y a, y a tout, qui, tout, ce qui, tout, tout se passe à la fin. Oui,
ah, parce qu'il y a, y a un final.
Ah bah ouais.
Bah allez-y.
Alors le final, même le tout final, c'est à congoutte.
On est entre adultes.
À congoutte de douceur, quand l'amour prend soin d'un cœur. Voilà, ça finit comme ça.
Oui, parce que le chien s'en va, la houlette,
la houlette aussi. Enfin, elle perd tout et donc on imagine qu'elle finit.
Elle gagne autre chose.
Voilà.
C'est une chanson d'initiation.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Dans la curiosité, on aime révéler des secrets grâce à nos invités Serge Hureau et Olivier Husnet, directeur et artiste permanent du Centre National du Patrimoine de la Chanson. C'est la face cachée de notre répertoire musical que l'on découvre. Il y a les comptines, beaucoup plus coquines qu'il y paraît, on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi des chansons qui sont cataloguées comme superficielles, un peu légères, comme la poupée de cire de France Gall.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Chansons, poupée de cire, poupée de son.
Pourquoi elle est cataloguée superficielle, cette chanson ?
Bah parce que Gainsbourg, en fait, est un monsieur spécial. C'est lui qui aime bien s'amuser avec ça. Et il a commencé dans le cabaret de la rive gauche et tout. Bon, le poinçonneur des lilas, ça marchotait. Tout d'un coup, arrivent les yéyés. Alors, tous les gens de la rive gauche vont chialer en disant « Ah, ces yéyés nous ont tout pris ». Et lui, pas du tout. Il est plus vieux que les yéyés, à peine de 7-8 ans. Et il commence à écrire des petites choses où il veut toujours mettre un sens profond. Et lui, il connaît tout de la mythologie, toutes ces choses-là. Et derrière cette histoire, c'est quoi ? C'est une poupée qui est donc qu'une voix. C'est une simple voix qui n'aurait pas de corps. Et à d'autres moments, elle est en cire. Et à la fin, elle nous dit simplement qu'elle ne peut pas s'approcher de la chaleur des garçons. C'est la vedette qui n'a pas, en fin de compte, d'amoureux. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans la salle ? Et personne ne dit oui. Et à la fin, évidemment, elle dit qu'elle est en cire. Et quand elle s'approche de la chaleur des garçons, elle fond. Voilà, c'est tous ces secrets. C'est comme un mythe, comme une...
Oui, ça peut être une chanson yéyé, en fait. C'est une chanson qui a une certaine profondeur.
Et puis France Gall, quand elle la chante, on est en 65, elle n'a que 18 ans. Ça ajoute aussi à cette impression de légèreté, de candeur.
Absolument, elle passe l'Eurovision, elle est persuadée qu'elle va perdre d'ailleurs, puisque pendant la répétition, les musiciens se moquent de la chanson. Et en plus, la Britannique est donnée gagnante. Et en fait, c'est elle qui remporte le prix.
Voilà. C'est une surprise pour elle. Première bonne surprise, sauf que juste après, il y a une mauvaise surprise.
Oui,
ça s'appelle la douche écossaise.
Exactement.
Qui lui arrive ce soir-là.
Elle reçoit un coup de fil, et apparemment, c'est un coup de fil de Claude François, qui était son petit copain, et qui lui dit « t'as été nul, t'as chanté faux », et qui la plaque.
Un peu de jalousie peut-être.
Ouais, puis de misogynie. De misogynie, on s'est toujours foutu de la gueule de cette femme, alors que c'est une femme formidable, étonnante.
Alors vous nous avez permis de découvrir, alors là franchement, moi je suis tombé de la chaise, c'est que je savais que Gainsbourg avait souvent fait appel ou s'était inspiré ou avait tout simplement pompé certains passages de très très grands compositeurs. Qu'est-ce qu'il y a là dans cette poupée de cire, poupée de son ? Écoutez bien ce passage précis. Alors effectivement, on retrouve un peu de la mélodie, c'est du Beethoven, non ?
C'est du Beethoven, oui, c'est la sonate en fa mineur de Beethoven, c'est le quatrième mouvement, le prestissimo. Voilà, oui, il est pétri de... Lui, il a une formation classique de musicien, il connaît très très bien Brahms, Chopin, Schubert et Beethoven, et donc là, il s'est dit, ben pour démarrer le thème de cette chanson, je vais prendre un truc qui est solide, quoi.
Ben voilà, dans la poupée de cire, poupée de son, il y a de la mythologie et du Beethoven. Ça, franchement, vous vous en doutiez
Quel
pas.
Quel concentré,
hein, c'est dingue.
Autre chanson des années 60, sortie quelques mois plus tôt, elle est signée Barbara, écoutez.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes. C'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen.
Serge Hureau et Olivier Husnet, vous publiez Ce qu'on entend dans les chansons aux éditions Point et vous y racontez l'histoire de cette chanson. Elle sort quand, cette chanson Göttingen ?
Elle sort dans les années 60, à un moment où elle vient, elle commence à rencontrer son vrai public. Hein, parce que Barbara, on sait, elle est un objet de fanatisme total. C'est l'idole, les gens sont accros, fétichistes à cette chanteuse. Et ça commence après un concert qu'elle donne à Bobino. Après avoir fêté avoir été première partie de Brassens, elle va à Bobino devenir une super vedette. Là, on commence à beaucoup la connaître et elle a courtisé notamment un Allemand.
En fait, là, ça se passe à l'Écluse. Le passage où ce jeune Allemand, qui est un jeune directeur de théâtre, vient la voir, c'est un fan, il vient la voir régulièrement à la fin des spectacles.
Et il l'invite après qu'elle commence à avoir du succès, c'est donc ça. Elle commence à être un peu moins libre.
Donc il l'invite en Allemagne,
oui,
c'est ça.
Oui, mais il ne lui dit pas que c'est en Allemagne. Il dit oui, venez chanter à Göttingen. Elle dit ah oui, bah, volontiers. Mais c'est où ça ? C'est en Allemagne. Ah, il y a un problème. Et donc elle ne veut pas, elle refuse.
Pourquoi ?
Elle refuse parce que c'est en Allemagne et qu'elle, elle est juive et donc elle a fui les nazis.
Elle a vraiment vécu des prisons toute la guerre. Horreur, quoi. Oui.
Alors, elle se rend à Göttingen.
Quand même.
Oui, et alors, cette chanson, on l'écoute en fond comme ça sans vraiment l'écouter, mais grâce à vous, on va connaître son histoire. C'est l'hymne de la réconciliation franco-allemande. C'est devenu ça. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. À Göttingen, comment elle va en arriver là, alors qu'au départ, elle refuse d'y aller? Finalement, elle se rend à Göttingen. Ça commence mal.
Qu'est-ce
qui se passe ?
Elle teste le piano droit. Elle dit « Ah, mais je ne joue que sur des pianos à queue ». Elle rentre dans sa chambre d'hôtel. En fait, elle ne veut pas chanter
elle
devant des Allemands.
Elle ne le teste même pas. Elle dit « Je vois que ce piano est nul ». On dit « Mais madame, testez-le ». Elle fait « Je suis une grande professionnelle ».
Et de sa chambre d'hôtel, donc elle est en train de pleurer. L'heure du début du concert passe. Les gens sont encore là. Elle est là dans sa chambre à pleurer. Et elle entend du bruit dans la rue. Elle se penche à la fenêtre et elle voit un piano à queue qui arrive, porté par 10 étudiants. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le poids d'un piano, mais enfin, c'est extrêmement. Ils ont dû s'abîmer le dos durablement.
Pour toute leur vie.
Elle les voit comme ça apporter un piano et elle se dit mais c'est incroyable, ces jeunes qui apportent un piano à queue. Parce qu'il y avait en fait une grève de livreurs de piano.
Et donc, il faut que j'aille chanter. Elle se dit il faut que j'aille chanter.
Et donc, elle y va. Donc, le concert a 2 heures de retard. Elle commence 2 heures après. Et elle est complètement fascinée par le public qui l'écoute avec énormément d'attention. Et les gens sont fascinés par elle.
Et le lendemain matin, elle écrit cette chanson.
Non, une semaine après.
Une semaine, ah, il est très exact.
Non mais attendez, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'elle reste en Allemagne, elle décide de rester en Allemagne.
En fait, c'est le directeur qui dit, vous avez eu un tel succès qu'on vous programme toute la semaine. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je reste. Et l'avant-dernier jour, elle écrit cette chanson.
Et de retour à Paris, Barbara enregistre aussi une version en allemand. Écoutez.
Dort gibt es keine Seine. Und auch den Wald nicht von Vincennes, doch gäb's die Passagen blieben. Von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder, und dabei blüht auch dort die Liebe. In Göttingen.
En version allemande, ça a été difficile à enregistrer pour Barbara.
Elle a voulu aller jusqu'au bout en leur chantant dans une langue qu'elle connaît pas, et on lui dictait tout. Vraiment, syllabe par syllabe.
La personne qui a fait le montage, à l'époque c'était sur bande magnétique, on n'était pas sur du numérique, et bien dit qu'il y a plus de 100 coups de ciseaux sur la bande magnétique.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin.
Le bon roi d'Agobert. À l'envers.
La curiosité est un vilain défaut.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le déserteur de Boris Vian, du Mozart aussi, Trenet, le roi d'Agobert, c'est le destin des chansons qui nous passionnent dans la curiosité, le destin et les secrets que nous révèlent nos invités Serge Hureau, Olivier Husnet. Vous publiez, je le rappelle, Ce qu'on entend dans les chansons, c'est aux éditions point, on va raconter maintenant comment une pastorale est devenue un chant révolutionnaire. D'abord, c'est quoi une pastorale, tiens ?
Une pastorale, ça se passe à la campagne. C'est comme les pasteurs avec, qui s'occupent des moutons. Et alors, il y avait une reine célèbre de France, la pauvre Marie-Antoinette, qui, un peu tête en l'air, qui adorait écrire des chansons. Elle en écrivait. Et avec les décennies, on continue à le faire. On aime bien jouer aux campagnards, même à la ville, dans les cafés-concerts. Mmh. Il y avait toujours le campagnard, la campagnarde. On trouve que c'est frais, que c'est un peu
coquin
excitant.
Aussi, non, ouais.
C'est toujours excitant, ouais. Parce qu'on est dans les folies, les maisons sous les arbres, tout ça. Et celle-ci, effectivement, c'est ça.
Et c'est des chansons.
Alors, donc c'est des chansons a priori légères. On va parler de l'une d'elles. C'est le temps des cerises. Qui l'a écrite ? Ça remonte loin. Ça
le temps des cerises.
C'est Jean-Baptiste Clément.
Voilà. Et
pour les paroles.
Ça, c'est 19e siècle. C'est quoi en 1800 ?
C'est 1866.
1866, il écrit sa petite chanson plutôt sur le deuil amoureux. Là aussi, ça a l'air un peu idiot, comme ça, simplement les gens qui s'aiment. Et puis aussi le côté un jour on ne s'aime plus. Et puis on se rappelle, c'est plutôt la blessure amoureuse. Mais bientôt arrive un événement important.
Alors, on va le raconter, n'allez pas trop vite, mais on réécoute peut-être.
Oui, puis le temps des cerises, reprise quand même, est réinventé par des centaines de chanteurs. Un extrait de la version d'Yves Montand.
Nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Cette chanson, Le temps des cerises, créée en 1866, va devenir l'emblème de la Commune de Paris en 1871. Comment ? Ça arrive ?
En fait, Jean-Baptiste Clément est emprisonné par Napoléon III. Et il sort un an avant la Commune. La Commune, donc en 1871, qui est sévèrement réprimée par la Semaine sanglante, le fameux tiers dont on a encore quelques rues. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi en France, on célèbre encore ce sinistre bonhomme qui a quand même tué des dizaines de milliers de personnes à Paris. En tout cas, la Commune est réprimée, c'est un bain de sang. Et Clément, qui lui a souffert justement de cette répression, en tout cas de cette oppression terrible de Napoléon III, décide de dédier cette chanson d'amour à Louise.
Louise ?
Alors Louise, c'est une anonyme, en fait, à part ce prénom, on n'a pas son nom. C'est la dernière brancardière à avoir été vue sur une barricade juste le dernier jour de la Semaine sanglante.
Et donc c'est une héroïne de la Commune de Paris.
Exactement. Et en lui dédiant en fait cette chanson, il en fait un hymne de la Commune. Ça deviendra l'hymne vraiment des gens qui veulent rappeler ce soulèvement populaire parisien et qui veulent...
Ça devient le chant de gauche, le chant révolutionnaire par excellence.
Totalement. Alors, la voix de Yves Montand qu'on vient d'entendre, elle est déjà un peu triste. Alors on pourrait le chanter avec beaucoup de légèreté, simplement l'histoire d'amour.
On pourrait la chanter comment par exemple ?
Ah ben avec plus de rythme.
Allez, faites, vous voulez nous le faire avec du rythme.
Swinguer !
Bah oui, c'est tout quand nous... Il y en a un qui l'a fait swinguer déjà, c'est Trainet. Il en a fait un swing, bah c'est facile, je sais pas, hein, ça donne quoi ? Quand nous chanterons le temps des cerises, et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Tout c'est facile, c'est
tout
de l'interprétation, on s'amuse.
Ouais, vous avez mis de la joie, voilà. Du sourire dans la voix. Et,
parce qu'il y en a en fait, ça parle que de désir, mais il y a cette nostalgie. Mais c'est beau de dire que les blessures politiques et les blessures d'amour, c'est pareil, oui, sûrement.
Alors on a une autre version, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs ou de groupes qui l'ont réinterprété. Tiens, par exemple, même aujourd'hui, au XXIe siècle, Noir Désir.
Des cerises, version Noir Désir, et puis une autre chanson maintenant dont le destin a pris un chemin imprévu, cette chanson à boire.
Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la prunelle on frôle son jupon, et chacun raconte une histoire à sa façon.
Moi, je me vois avec une pinte, avec une pinte de bière. Il faut faire trinquer les pintes comme ça.
Je vois très bien. Hein, la Madelon, créée par Lynn Renaud. Quand cette chanson
enfin, pas créée, interprétée.
Interprétée,
là.
Pardon. Quand elle a été créée, justement, cette chanson?
Alors, créée, cette chanson, la Madelon, Olivier.
Elle est créée par Bach et Paulin. Donc, c'est deux comiques troupiers. Alors, le comique troupier, c'était au café... au café concert, c'était vraiment, ils étaient habillés, ils avaient un uniforme.
Ils prennent un bide immédiat avec cette chanson.
On est au tout début du XXe siècle, c'est au début de la guerre, c'est ça?
C'est ça, on est en 1914, on est avant la guerre, avant la déclaration de guerre.
Ça démarre juste avant la déclaration de guerre, c'est ça.
Et donc ils chantent ça devant leur public qui attend les rigolades, etc. Et les gens sont, c'est quoi cette chanson? Enfin bref, ils la trouvent pas drôle du tout, elle fait un flop total pour les deux.
Parce donc, qu'ils sont... aux oubliettes pendant quelques mois.
Aux oubliettes pendant quelques
Comment
mois.
Comment elle ressort des oubliettes?
Eh bien, elle ressort. Elle ressort à l'arrière du front, donc puisqu'à l'arrière du front il y avait des endroits où on donnait un peu de joie aux combattants qui vivaient quand même un enfer au front, et donc à l'arrière on essayait de leur faire un peu penser, de les faire penser
de
un peu à autre
et de
chose.
De joie, de l'alcool aussi pour tenir.
Voilà. Quoi de mieux qu'une Madelon?
Et alors quoi de mieux qu'un concert? On leur donnait des concerts de comiques troupiers qui étaient censés les faire rire, donc ça les a fait beaucoup rire, et donc c'est Bach qui s'y colle et donc tout le monde rigole et il est bissé, il est voilà, il n'a plus de chansons, donc il se souvient, il se dit ah tiens je vais leur chanter la fameuse Madelon, et comme ça je suis sûr de pouvoir rentrer chez moi après parce que
ça va vider la salle, ça va jamais marcher
pour refroidir la salle.
C'est drôle.
Ils chantent ça, et là les poilus sont tous en pleurs en écoutant cette chanson là. Ils sont émus. Alors la chanson est bissée, trissée, il ne peut plus quitter la scène. Et en une semaine, en fait, la réputation de la Madelon se répand comme une traînée de poudre dans les tranchées.
Ça devient l'hymne des poilus en quelque sorte.
Et en fait, en quelques mois, ça devient l'hymne des poilus. Ouais.
Et on la surnomme, cette Madelon, la Marseillaise des tranchées. J'ai lu ça dans votre livre, ce qu'on entend dans les chansons aux éditions Point. Sauf qu'il y a plein de quiproquos et de malentendus autour de la Madelon. D'abord, ça passe pas bien dans l'opinion publique. On n'employait pas ce terme à l'époque, mais que les poilus aiment la Madelon. Pourquoi?
Bah, d'abord, ça rappelle qu'ils essaient de se réjouir entre eux, qu'ils boivent beaucoup. Hein. On donnait même beaucoup à boire pour aller au combat, hein, pour aller tuer carrément. Donc ça parle de tout ça. On les trouve de moins en moins intéressants. Ça devient un sujet qui ne plaît plus dans les villes. On ne veut plus trop entendre parler de la guerre alors que les femmes sont là, tiennent les usines, bossent comme des malades. On ne veut plus trop en entendre
c'est
parler.
C'est surtout qu'on a une lecture en fait, de la chanson qui est une lecture un peu biaisée.
On pense facile.
Que c'est une prostituée. Quoi. On pense tout simplement que est-ce que chante ces poilus, c'est une femme qui aime tout un régiment. Elle le dit dans le dernier couplet. Donc on pense qu'effectivement c'est une fille facile. Alors que du point de vue des poilus, d'après les témoignages, cette arrière-pensée n'était pas si claire que ça. Et c'était simplement une femme qui représentait l'arrière, l'insouciance et qui leur faisait penser tout simplement à autre chose.
Merci
infiniment. À tous les deux. C'était génial. Merci beaucoup.
Et dans un instant, on va plonger dans l'histoire d'un des lieux de pouvoir les plus mystérieux et fascinants de la planète, le Kremlin. Pas n'importe lequel, le Kremlin coquin.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.